VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Soudan, les généraux qui dirigent le pays depuis la destitution de l'ex-président Omar al-Bashir en avril et les chefs du mouvement de contestation ont trouvé aujourd'hui, un accord entérinant le partage du pouvoir pendant la période de transition. La déclaration politique a été paraphée par les deux camps après une nuit d'intenses négociations. Des discussions doivent encore avoir lieu dans les prochains jours sur les points encore en litige pour finaliser l'accord trouvé le 5 juillet. Les pourparlers entre les deux camps ont été repoussés à plusieurs reprises ces derniers jours, butant notamment sur la question de l'immunité que réclament les militaires. Ebola en République démocratique du Congo, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va de nouveau évaluer aujourd'hui la portée internationale de l'épidémie de fièvre hémorragique en RDC, après le décès du premier cas enregistré dans une grande métropole congolaise, à savoir Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays et important carrefour commercial dans la région des Grands Lacs. Le point avec Jean-Roger Bion.
Un peu plus d'un mois après les deux premiers cas enregistrés à l'étranger en Ouganda, l'OMS va de nouveau se demander s'il faut élever cette épidémie qui a tué 1668 personnes depuis l'été dernier au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. La situation doit être pour cela grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue, avec des répercussions pour la santé publique au-delà des frontières nationales de l'État touché, ce qui peut exiger une action internationale immédiate selon les critères du règlement sanitaire international. La réponse avait été non le 14 juin dernier, mais ce premier cas diagnostiqué à Goma, la plus grande ville touchée avec 1 à 2 millions d'habitants, semble bousculer la routine de la riposte face à une épidémie déclarée le 1er août 2018. Conséquence, le directeur général adjoint de l'OMS, Ibrahima Sosefal, a déclaré à la presse qu'il est important d'évaluer le niveau de risque. L'évaluation de l'OMS montre que le risque est élevé pour les provinces et les pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, a ajouté le coordinateur de l'OMS sur place, Michel Yao. Goma est si proche du Rwanda qu'a d'ailleurs déconseillé à ses ressortissants de traverser la frontière.
Au Cameroun, la défense de l'opposant Maurice Kamto, qui doit être jugé devant le tribunal militaire de Yaoundé avec une centaine de ses partisans, a annoncé mardi son intention de faire appel de cette décision. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, principal adversaire du président Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2018, a été arrêté en même temps qu'environ 150 autres personnes à la suite d'une manifestation de protestation pacifique organisée dans plusieurs villes du pays le 26 janvier. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant, mardi 16 juillet, les États-Unis ont ajouté deux djihadistes maliens, à savoir le commandant Baag Moussa et Ali Machou, à la liste spéciale des terroristes. Et ce, dans le cadre des efforts plus vastes visant à prendre pour cible le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Notre correspondant Bamako Kassim Traoré brosse le portrait de ces deux terroristes.
Bamoussa Diarra, communément appelé Baag Moussa, a participé à la rébellion Touareg de 1990 à 1996, au terme de laquelle il a intégré les rangs de l'armée malienne. Il reçoit le grade de colonel et désigné commandant des unités spéciales chargées de combattre l'insécurité dans la région de Kidal. En 2012, il déserte à nouveau. C'est pour rallier les MNLA, mais considéré comme proche de Iyad Agali, il rejoint rapidement le groupe djihadiste Ansar Dine, puis le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en 2017. Baag Moussa a participé à plusieurs attaques contre l'armée malienne et les forces étrangères. Quant à Abdourahman Al-Sahi, dit Ali Manchou, il était le cadi des djihadistes pendant l'occupation à Tombouctou. Il a par suite intégré le groupe de soutien à l'islam sous le contrôle de Iyad Agali. Baag Moussa et Ali Machou sont les deux hommes que les États-Unis viennent d'ajouter à la liste des terroristes présumés mondiaux. Leur désignation bloque tous les avoirs de Moussa et Machou se trouvant aux États-Unis ou sous le contrôle des citoyens américains. Il n'est pas clair si l'un ou l'autre des deux hommes a des biens sous la juridiction des États-Unis. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Sahara occidental, Human Rights Watch exhorte les autorités de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, proclamée par les indépendantistes au Sahara occidental, à fournir les preuves des crimes commis par 3 militants sahraouis qu'elle maintienne en détention. Sinon, les prisonniers doivent être mis en liberté, a souligné hier l'Organisation de défense des droits humains basée à New York. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo.
Moulay Ababouzid, Fadel Mohamed Breika et Mahmoud Zeidan ont été arrêtés à la mi-journée par les autorités de la RASD. Ils sont accusés d'incitation à la rébellion, diffamation et calomnie. Selon Human Rights Watch, les trois hommes sont détenus à Rabouni dans la région algérienne de Tindouf. Pour Lama Faki, directrice adjointe Afrique du Nord de Human Rights Watch, un mois après l'arrestation des trois hommes, les autorités n'ont toujours pas divulgué les éléments qui sous-tendent de telles accusations. Elle ajoute qu'en l'absence de preuves d'activité criminelle, les trois hommes devraient être remis en liberté. Messieurs Bouzid et Breika sont membres de l'initiative Sahraoui pour le changement et M. Zeidan est membre du Forum des jeunes Sahraouis pour une solution, deux organisations basées en Espagne qui contestent la direction du Polisario et prônent de nouvelles approches pour régler ce conflit avec le Maroc. La RASD a été proclamée en 1976 par le Polisario soutenu par Alger, proclamant l'indépendance du Sahara occidental que le Maroc considère comme partie de son territoire.
Conflit en Libye, plusieurs pays occidentaux et arabes ont lancé un appel en faveur de l'arrêt des combats dans le pays. Ils ont averti qu'une poursuite des violences aurait un impact sur la situation humanitaire et la crise des migrants et pourrait faire le jeu des extrémistes. Dans une déclaration commune, mardi, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie ainsi que l'Égypte et les Émirats arabes unis ont également exprimé leur profonde inquiétude au sujet des violences de la région de Tripoli, la capitale. Actualité américaine. Pour terminer, le 20 juillet 1969, les astronomes américains Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont posé le pied sur la Lune, les premiers hommes à accomplir cet exploit. La NASA, l'agence spatiale américaine, s'élève avec beaucoup de fierté. Actuellement, le 50e anniversaire de cet événement historique en restaurant et rouvrant la salle de commande qui gérait la mission historique Apollo 11. Aujourd'hui, c'est un musée, mais il a l'air bien réel comme en 1969. Lesia Bakaletz a visité la salle de contrôle. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
L'aigle a atterri. Tels étaient les premiers mots que les ingénieurs dans la salle de contrôle ont entendus de la Lune alors qu'un nouveau chapitre de l'exploration spatiale s'ouvrait. Gene Kranz était le directeur de vol de la mission Apollo.
Nous venons d'atterrir sur la Lune et l'équipage a éteint le moteur. Et alors que le monde est célèbre, mon équipe doit continuer à travailler car nous devons nous assurer qu'il est prudent de rester à la surface de la Lune.
Le centre de contrôle de Houston a géré des vols spatiaux pendant deux décennies supplémentaires. En 1992, l'équipe de contrôle s'est installée dans une partie plus modernisée du centre spatial et la salle historique a été fermée.
J'ai donc nettoyé les consoles, débarrassé des bouteilles et des canettes. Il y avait parfois des objets dans les corbeilles à ordures. En gros, cet endroit n'était pas représentatif des différentes missions de contrôle historique.
En 2013, un groupe de rénovateurs a remporté le contrat de restauration pour remettre la salle de contrôle dans son état du 20 juillet 1969. Adams Grave est un des responsables à Historic Preservation.
35 entretiens avec les contrôleurs de vol. Ils se sont assis à chaque console et ont indiqué le bouton avec lequel ils interagissaient le plus et ce qu'ils faisaient sur leur console. Cela a beaucoup aidé le processus de restauration.
Les rénovateurs ont passé 5 ans à effectuer des recherches minutieuses. Le plus gros défi était celui de restaurer les consoles et de s'assurer que les grands écrans, les éléments les plus grands et les plus visibles de la salle, ont exactement le même aspect qu'il y a un demi-siècle.
Les écrans 1, 2 et 5. Pendant peut-être plus d'un an, nous n'avons pas pu trouver ce qui était supposé être affiché sur ces écrans pendant la descente et l'atterrissage. Après plusieurs recherches, nous avons trouvé la vidéo adéquate qui nous a montré un morceau de ce que nous devions faire pour le reconstruire.
Aucun détail n'était trop petit. Les rénovateurs ont trouvé du papier à lettres de la fin des années 1960, ainsi que des cendriers, des cigarettes et des canettes de soda. Le centre de contrôle de la mission restaurée est ouvert aux touristes qui peuvent le voir à travers une grande baie vitrée.
Merci à Zuma Compaoré. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.